Chapitre 5. Le lendemain, Siméon se mit en route de bonne heure, marchant comme un homme qui sait bien où il va, d'un pas rapide et résolu. Sous son bras, il portait les trois portefeuilles, ficelés et emballés dans un grand papier brun. Cela faisait un paquet assez lourd. Chaque fois qu'il le passait d'un bras sous l'autre, il se demandait si sa charge serait plus légère au retour. Par sagesse, il essayait de se persuader qu'il n'espérait rien, que le professeur dont il avait l'adresse serait un homme revêche, que les libraires repousseraient toutes ses ouvertures et qu'il n'aurait que de mauvaises nouvelles à rapporter à Ferdine. Mais au fond du cœur, quelque chose lui chantait une gaie petite chanson d'espoir. Le ciel était d'un bleu fin et printanier, parsemé de quelques petits nuages blancs qui flottaient comme des plumes. Des bouffées d'air passaient, tièdes, avec un vague parfum de bourgeons et de brins d'herbe. Derrière les barrières qui bordaient la route, des pâquerettes souriaient. Tout semblait aller de soi dans ce monde ensoleillé. La vie paraissait légère et facile, et l'espoir bien naturel. Siméon se mit à fredonner un chant d'école, quoiqu'il eût la voix fausse et qu'il se livrât rarement à des épanchements musicaux. Après une heure de marche, il s'assit au bord du chemin, sur un tas de pierres, et déjeuna d'un morceau de pain, puis il se remit en route. L'horloge du clocher gris, qui dominait les toits de la petite ville, sonnait 10 heures quand Siméon atteignit les premières maisons. Alors il ralentit sa marche, le front penché pour mieux réfléchir. Désireux surtout de garder le secret sur son expédition, il n'avait pas demandé à son instituteur, comme il aurait pu le faire, un mot de recommandation pour le professeur de botanique. Il le connaissait bien, ce professeur, pour l'avoir rencontré presque chaque été dans le vallon des Seignes, à la chasse d'une mousse très rare qui croissait en touffes jaunâtres près du ruisseau. Il savait son nom, M. Pomponnel, et ce fut ce nom qu'il prononça d'une voix un peu tremblante quand la concierge du grand bâtiment tout blanc qui était le collège lui apparut sur le seuil de la haute porte. Cette concierge avait l'air bienveillant, des bandeaux de cheveux blonds ondulés, et Siméon remarqua machinalement qu'elle portait des boucles d'oreilles ornées d'une jolie pierre bleue. Il aimait le bleu, c'est une couleur, pensait-il, qui a l'air bienveillant. Et il regardait fixement les boucles d'oreilles de l'avenante concierge en lui adressant sa question. « Monsieur Pomponnel est-il ici? Est-il occupé ?»« Voyons, c'est aujourd'hui, mercredi, Monsieur Pomponnel doit descendre à 10 heures. »« Il vient de sonner 10 heures, » dit Siméon. On entendit un pas résonner dans l'escalier de pierre. « Voici Monsieur Pomponnel, » dit la concierge en rentrant chez elle. Siméon, plus ému qu'il ne l'eût souhaité, s'avança à la rencontre du professeur. M. Pomponnel était un très petit homme qui ne pouvait supporter qu'on fût plus grand que lui. On eût trouvé dans ce faible la clé de tous ses actes, de ses antipathies comme de ses préférences, et même de sa spécialité scientifique, l'étude des mousses et des lichens. Les grandes plantes élancées ne l'intéressaient pas. Les grands élèves de ses classes lui étaient insupportables. Il réservait toute son indulgence pour ceux dont la croissance semblait s'arrêter. Or, il se trouva malheureusement que Siméon, étant fort grand pour son âge, dépassait de quelques pouces la taille du professeur. Celui-ci, voyant que Siméon s'apprêtait à lui parler, resta debout sur l'avant-dernière marche, dominant de ce piédestal ce jeune interlocuteur et le regardant d'un œil sévère. « Monsieur, commença Siméon en affermissant sa voix, comme je sais que vous enseignez la botanique dans ce collège, je venais vous prier d'examiner de petits herbiers que j'ai faits. Je les ai ici, si vous me permettiez. »« Pas maintenant, je suis pressé, » dit M. Pomponnel avec un geste de la main, comme Siméon se préparait à dénouer la ficelle de son paquet. « Revenez demain, un autre jour. » « Je demeure assez loin d'ici. J'ai fait 4 lieues ce matin, » reprit le jeune garçon en rougissant un peu, car cette phrase lui sembla tout à coup avoir une vague ressemblance avec la formule des pauvres voyageurs qui demandent un morceau de pain pour le déjeuner. Son visible embarras adoucit M. Pomponnel. « Bien, bien, je tâcherai de vous donner quelques minutes. Ouvrez votre paquet. » Il lui indiqua une table massive placée au fond du vestibule et poussa même vers lui un des tabourets alignés contre la muraille. Quoique assez fatigué, Siméon refusa de s'asseoir, voyant que M. Pomponel restait debout. Il ne comprit pas que le petit homme désirait produire au moins l'illusion d'une stature plus élevée que celle de Siméon. « Comme vous voudrez, » dit sèchement M. Pomponel. Côte à côte avec Siméon, il le mesura d'un coup d'œil et le rangea immédiatement dans ce qu'il appelait la catégorie des asperges, c'est-à-dire des gamins efflanqués et gauches dont on ne pouvait rien attendre de bon. D'une main négligente, il feuilleta les herbiers que Siméon ouvrait, le cœur palpitant de crainte et d'espoir. « Vous savez donc un peu de botanique ? Tenez, voilà là une cardamine pretentis qui devrait avoir mieux gardé sa couleur. » « La couleur lilas jaunit presque toujours, » fit timidement observer Siméon. « Oui, quand on ne sait pas s'y prendre. Ce dianthus est mal déterminé. Il appartient au sous-genre sylvestris, comme le prouvent les feuilles un peu canaliculées en dessous et glabres sur les bords. Vous n'avez pas une seule plante rare et vraiment intéressante dans votre herbier, » conclut M. Pomponel en refermant le portefeuille. « Ce n'est pas là mon herbier à moi, » dit Siméon, résolu à ne pas se laisser démonter trop facilement. « J'ai à la maison beaucoup d'espèces rares, mais j'ai voulu faire de ces trois petites collections un résumé de la flore commune, celle qu'on rencontre partout. Vous avez remarqué que toutes les familles principales sont représentées. Je me suis donné beaucoup de peine aussi pour choisir un nombre égal de fleurs de chaque saison, afin que les élèves... » Il s'interrompit. « Que les élèves ?» répéta M. Pomponel d'un ton peu encourageant. « Je pensais, » reprit Siméon avec effort, « que ces petits herbiers pourraient être utiles aux élèves qui étudient la botanique. Et vous comptiez les leur offrir ?»« Je désirais les vendre, » répondit Siméon, dont le visage se couvrit de rougeur. M. Pomponel se mit à rire d'un petit rire sec. « Mes élèves, » dit-il, « composent eux-mêmes leurs herbiers sous ma direction. » Puis il s'éloigna majestueusement et, comme un autre professeur descendait en ce moment l'escalier, il lui dit « Je ne sais où nous allons. À 15 ans, » il désignait Siméon d'un mouvement de tête, « à 15 ans, on a déjà l'âme commerciale. Il n'y a plus d'enfants. » L'autre professeur approuva cette remarque d'un léger signe, regarda Siméon avec indifférence et sortit, tandis que M. Pomponel remontait d'un pas lent vers les régions supérieures. En cet instant, la concierge sortit de sa loge. Nous ne saurions, sans de fortes preuves, la soupçonner d'écouter aux portes, mais le fait est qu'elle semblait au courant de la situation. Elle s'approcha de Siméon et, sans mot dire, lui aida à remettre dans ses portefeuilles les plantes éparses sur la table. Machinalement, s'inquiétant peu de l'ordre des familles et des espèces, il entassait les unes sur les autres ses feuilles assorties quelques jours auparavant avec tant de soin et de gaies espérances. « Vrai, ça me fait de la peine pour vous, » dit enfin la concierge. « J'aurais dû m'y attendre, » répondit Siméon, qui s'efforçait d'être héroïque. « J'aurais dû prévoir que les élèves de M. Pomponel faisaient eux-mêmes des herbiers. » « Ils sont jolis, leurs herbiers !» s'écria la concierge. « Je n'y entends pas grand-chose, assurément, mais j'ai des yeux, comme tout le monde, pour voir ce qui est proprement fait et ce qui ne l'est pas. Leurs herbiers, c'est du foin avec des pâtés de colle dessus. Et puis, leurs plantes n'ont pas de racines. J'ai entendu M. Pomponel lui-même se plaindre de ce qu'il ne pouvait obtenir de racines. Il disait « Mes élèves ne savent pas cueillir, ils broutent. » Voilà ce qu'il disait. Je le sais bien pour ma part. Quand on les envoie en expédition botanique, ils reviennent avec des bottes d'oseille sauvages qu'ils mangent comme des chèvres et je suis toujours obligée de balayer l'escalier après eux. Les voilà, leurs herbiers. C'est du propre. » Siméon, irrésolu, ayant ficelé son gros paquet, se demandait s'il allait reprendre tout droit la route de chez lui. Il regardait la concierge, dont les yeux étaient bleus comme ses boucles d'oreilles et qui avait l'air si bonne femme, quoique un peu trop bavarde. Lui dirait-il toute sa peine? Lui demanderait-il conseil? Il s'y décida enfin. « Madame, commença-t-il, j'avais fait ces herbiers et je désirerais les vendre parce qu'il me faut une somme d'argent pour une chose que j'ai entreprise, une chose très sérieuse. Je comptais sur le professeur de botanique. Connaîtriez-vous quelque autre personne qui serait disposée à les acheter ?» Il rougissait de nouveau, le pauvre garçon, et la voix lui manquait presque. Jamais il n'aurait cru que ces deux mots, acheter et vendre, fussent si difficiles à prononcer. « Il y aurait les libraires, » dit la concierge après un moment de réflexion. « Nous en avons deux pour les fournitures scolaires. L'un demeure au bout de la rue. Tenez, on voit l'enseigne d'ici. L'autre, c'est plus loin. Vous tournerez le coin de cette terrasse, là-bas, puis vous prendrez à gauche et vous irez tout droit. Impossible de s'y tromper, vous verrez la devanture. » Et du seuil de la porte où Siméon se tenait à côté d'elle, elle lui indiqua le chemin à prendre. Puis elle lui souhaita bonne chance et lui fit encore un petit signe de la main quand il sortit de la cour. Siméon avait repris quelque espoir. Les librairies, c'était une bonne idée. Elles vendent des modèles de dessin, des modèles d'écriture. Pourquoi refuseraient-elles de vendre aussi des herbiers modèles? Et Siméon souriait en se demandant si les cardamines des élèves de M. Pomponel gardaient mieux que les siennes leur couleur lilas. La description que lui avait faite la concierge de ses collections d'oseilles lui avait donné un instant de malin plaisir. Mais son cœur se remit à battre très fort quand la devanture d'une librairie lui apparut au bout de la rue. Les glaces en étaient fort brillantes. Le petit perron était de pierre blanche immaculée. Siméon le gravit et entra. Il s'efforçait d'être calme, mais son front était inondé de sueur. Une dame, habillée de gris, à la figure blanche et froide, tricotait derrière le comptoir. Involontairement, Siméon trouva qu'elle ressemblait à son perron. « Que désirez-vous ? » demanda-t-elle d'une voix également incolore et froide. « Je voudrais, murmura-t-il, vous faire voir des herbiers. » Elle crut comprendre qu'il demandait à voir des herbiers. « Nous ne tenons pas cet article, » répondit-elle. « Mais je désire vous en faire voir. J'en ai ici. » Et il posa son paquet sur le comptoir. « Merci, merci, » dit la dame avec précipitation. « Nous n'avons pas besoin d'articles nouveaux. Non, non, ne prenez pas la peine. C'est inutile. Bonjour. » Ainsi congédié en deux temps et trois mouvements, Siméon se retrouva dans la rue avec son paquet. Fallait-il qu'il rassemblât son courage pour une troisième tentative ? Oui, car on dit chez nous, trois fait le droit, pensa-t-il. L'autre librairie avait une devanture moins éblouissante et pas de perron du tout. C'était tout bonnement une boutique. Le vieux petit homme chauve qui s'y promenait de long en large, les mains dans ses poches, salua Siméon d'un « Bonjour, mon garçon !» très cordial et pas du tout cérémonieux. « Qu'y a-t-il pour votre service ? » poursuivit-il en retirant ses mains de ses poches. « Je viens vous proposer d'acheter des herbiers que j'ai faits et qui pourraient être utiles, du moins je le crois, aux élèves de l'école supérieure, » dit Siméon, encouragé par la mine bienveillante du petit libraire. « voyons ça !» fit celui-ci avec empressement. « Des herbiers, vous dites ? Ça doit être intéressant !» Siméon ouvrit ses portefeuilles et en étala le contenu sur le comptoir. Curieux, très curieux, très, très curieux, répétait continuellement le petit homme, si bien que Siméon se crut en conscience, obligé de lui dire que ces plantes étaient au contraire fort communes, qu'on les trouvait partout. N'importe, c'est très, très curieux, ma foi. Je ne trouve pas d'autre mot pour la chose. Cette petite plante-là, vous dites qu'elle s'appelle ? C'est la bourrache, tout simplement. La bourrache, très curieux, fit le libraire, qui s'interrompit subitement et mit sa main devant sa bouche d'un air de confusion. Non, ce n'est pas curieux que je veux dire. Nous avions trouvé une autre expression, mais elle m'échappe. Ah, c'est la bourrache. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais je suis sûr d'avoir vu cette plante quelque part dans le temps. « C'est bien probable, » répondit Siméon, qui commençait à trouver le libraire un peu singulier. En ce moment, la porte du fond s'ouvrit et une jeune femme en deuil entra, portant un bébé sur ses bras. « Ah, c'est toi, Aline, » dit le petit vieux, « j'étais en affaire avec ce jeune homme. Tiens, regarde ces plantes et dis-moi si ce n'est pas curieux. Ce jeune homme prétend que ce n'est pas curieux, moi je prétends que c'est remarquable. Oui, remarquable, voilà le mot. » « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» dit la jeune femme avec un sourire. « Je regrette qu'on vous ait fait attendre. Papa garde le magasin quand je suis occupée ailleurs, mais papa, » elle lui posa la main sur l'épaule, « papa doit m'appeler s'il arrive un client. » « Je ne suis pas un client, madame, » dit Siméon. « J'offre ces herbiers à vendre. Si vous le permettiez, je vous les laisserais en dépôt. Les écoliers les verraient en passant et peut-être qu'ils les achèteraient. »« C'est très joli, » dit la jeune femme en se penchant sur le comptoir. « Très remarquable, » ajouta le petit vieux. « Tiens, Aline, ceci, par exemple, c'est... Comment l'appeliez-vous tout à l'heure, jeune homme ?»«
La bourrache. »
Le bébé se trémoussait et tendait les bras vers ses belles feuilles blanches qui excitaient sa convoitise. Sa mère l'assit sur le comptoir. Par la porte restée entr'ouverte, se faufilèrent deux petites filles de 3 ans environ, se tenant par la main. « Mes jumelles !» dit la mère en les montrant à Siméon d'un geste plein d'orgueil. Mesdemoiselles et les jumelles demandèrent également à être hissées sur le comptoir. Dans cette librairie, on faisait les choses en famille. Tout en relevant les bas du bébé, la jeune marchande continuait à s'entretenir avec Siméon. « Vos collections sont très jolies, disait-elle. Je ne demanderai pas mieux que de vous obliger, mais il faut que j'en parle d'abord à M. Pomponel, le professeur de botanique. Je ne fais rien sans le consulter. Depuis que j'ai eu le malheur de perdre mon mari, il y a tantôt une année, elle essuya une larme avec le coin du tablier du poupon. M. Pomponel est mon conseiller. Je n'étais pas habituée du tout à la librairie et je me trouvais parfois bien embarrassée. Laissez-moi vos 3 portefeuilles, il les examinera. Je suis certaine que ça l'intéressera. » Siméon avait eu un moment d'espoir. L'air bonhomme de ce petit magasin, le sourire de la jeune femme, ses enfants qui babillaient gentiment, et même l'innocent radotage du petit vieux, tout cela l'avait ranimé. Mais le nom de M. Pomponel effaça comme un gros nuage le joli rayon. « J'ai déjà vu M. Pomponel, » dit-il avec effort. « Il préfère que ses élèves fassent eux-mêmes leurs herbiers sous sa direction. »« Ah !» murmura la marchande d'un ton de regret. Au bout d'un moment, elle reprit, embarrassée. « Je connais M. Pomponel. Quand il est chaussé d'une idée, il n'en change pas facilement. Vous a-t-il mal reçu ?»«
Il a tout critiqué, puis il m'a tourné le dos, » répondit Siméon, dont le ressentiment, pour ne pas se traduire en ébullition de colère, n'était que plus intense.
La jeune femme hocha la tête d'un air soucieux. « Dans ce cas, s'il vous a pris en grippe, vous et vos herbiers, personne ne l'en fera revenir. Je lui dois la meilleure partie de ma clientèle. Tous ses élèves achètent leurs fournitures chez moi. Et vous comprenez... »
« Oui, je comprends, » dit Siméon.
Madame Aline renfermait elle-même les portefeuilles comme si elle avait eu hâte de les voir disparaître. « Eh bien, tu les achètes, n'est-ce pas ?» dit le petit grand-père en faisant sauter le bébé dans ses bras.
« Non, non, c'est impossible. Monsieur Pomponel ne remettrait pas les pieds ici. Je dois le ménager. Mon pauvre garçon, j'en suis fâché pour vous. »«
Comment, comment ?» s'écria le vieillard en posant une main tremblante sur les portefeuilles. « Aline, tu n'y penses pas, de si jolies plantes et si curieuses ? De la bourrache bleue. Il y en avait dans notre jardin quand j'étais petit et maman nous faisait de la tisane avec. Aline, je t'en prie !» Ses yeux se remplirent de larmes comme ceux d'un enfant auquel on enlève un jouet favori. Son air de supplication, ses deux mains qu'il étendait pour protéger le trésor admiré, touchèrent Siméon.
« Voyons, petit père, sois raisonnable, » dit sa fille.
Puis, se tournant vers Siméon, « Dans une heure, il n'y pensera plus. » Cependant, les mains du vieillard s'attachaient toujours au portefeuille, comme s'il eût craint qu'on ne le lui enlevât de force, et ses yeux allaient avec anxiété du visage de sa fille à celui de Siméon, comme pour y découvrir quelques signes de favorable augure. Enfin, Siméon n'y tint plus. « Gardez cet herbier, » dit-il en mettant sa main sur celle du petit vieux, dont le chagrin éveillait en lui une vraie pitié mêlée de tendresse. « Gardez-le, je vous le donne, puisqu'il vous fait plaisir. »
« Non, non !» dit la marchande à voix basse en lui touchant le bras. « Ne faites pas cela, mon garçon. Écoutez-moi. Je ne suis pas riche. Il m'est impossible de donner à mon père un objet aussi coûteux. »«
Vous n'en savez pas même le prix, » interrompit Siméon. « Et c'est moi qui le donne. »«
Je ne saurais l'accepter. Vous êtes venu ici pour vendre, non pour faire des cadeaux. Je vous en prie, reprenez vos portefeuilles et sauvez-vous. »
Pour toute réponse, Siméon se tourna vers le vieillard.
« Je m'en vais, » lui dit-il. « Quand M. Pomponel viendra, Cachez bien votre herbier, car s'il le voyait, il se fâcherait. »
Comment donc ? S'écria le vieillard. « Vous ne vous en allez pas ainsi ? Il faut qu'il dîne avec nous, n'est-ce pas, Aline ?»«
Oui, dînez avec nous, vous ferez plaisir à tout le monde, » dit Madame Aline en le retenant, car il se dirigeait déjà vers la porte.
Et les jumelles qui l'avaient suivi lui entourèrent les jambes de leurs petits bras en criant
« Reste, reste, gangasson !»
Sur quoi le poupon, mis en joie par tout ce mouvement, voulut témoigner aussi de ses dispositions hospitalières, en trépignant sur le comptoir et en agitant ses petites mains.
Siméon resta donc. L'amertume qu'il avait d'abord éprouvée se dissipait peu à peu. Quand il vit autour de la table les deux jumelles, dont le menton s'élevait à peine au-dessus de la nappe, le bébé dans sa chaise haute et ce bon petit grand-père qui était pour sa fille un enfant de plus, quand il vit que le dîner consistait simplement en une grande terrine de riz au lait avec un morceau de pain bis pour chacun, il ne songea plus à blâmer Madame Aline. Il faut bien, en effet, qu'elle ménage M. Pomponnel. Si la librairie n'allait plus, que deviendraient ses petits ? Ce fut avec de cordiales poignées de main et des vœux de part et d'autre qu'ils se séparèrent. Siméon, son paquet sous le bras, s'en alla presque joyeux. Pourquoi ? C'est qu'il avait entrevu des soucis plus graves que les siens, courageusement supportés, et qu'en pensant au visage tranquille de cette jeune femme, qui savait sourire malgré son deuil et sa lourde tâche, il aurait eu honte de se laisser abattre par une légère déception. Mais que dirait Ferdine ? À la pensée de son désappointement, Siméon ralentissait le pas malgré lui. À quoi bon tant se hâter quand on apporte une mauvaise nouvelle ? La tête baissée, il marchait lentement, essayant de reconstruire quelques projets. « Si j'habitais une ville, je porterais des paquets, je ferais des commissions, » pensait-il. « Mais dans notre village, personne n'a besoin de ces menus services. Chacun fend son bois, chacun monte son eau, chacun fait ses courses lui-même. Je ne suis donc bon à rien qu'à me fourrer dans la mémoire des déclinaisons latines et des nomenclatures d'insectes. Si j'étais sage, cette première leçon me suffirait. Je renoncerais ici même, avant de rentrer à la maison, à tous ces projets qui ne sont que des chimères. » Il s'arrêta, posa son paquet au bord du chemin et s'assit. Il apercevait déjà le clocher brun du village. Bientôt, il faudrait raconter toutes les défaites de cette humiliante journée. Que dirait Ferdine ? C'était comme le refrain de toutes ses pensées. Que dirait Ferdine ? Il essayait en vain de retrouver du courage. La tête dans ses deux mains, il entendait des mots bourdonner autour de lui. « Renonce à tes chimères, renonce !»« Siméon, Siméon, tu ne vois donc rien ? Voilà un quart d'heure que nous te faisons des signes !» s'écria la voix de Ferdine au détour de la route. « Nous sommes venus à ta rencontre !» Il se leva, honteux d'avoir été découvert dans cette attitude accablée. Ferdine, aussitôt qu'elle l'avait aperçu, s'était mise à courir, tandis qu'Ernest flânait à l'arrière-garde, grignotant d'un petit pain.
« Eh bien !» dit Ferdine en jetant ses bras autour du cou de Siméon. Du premier coup d'œil, elle avait vu le paquet gisant dans l'herbe.
« Tu rapportes les herbiers ?»«
J'en rapporte deux. »«
Tu as donc vendu le troisième ? » s'écria-t-elle joyeusement.
« Je l'ai donné !» répondit Siméon, qui ne put s'empêcher de rire.
« Donnez ? Raconte !» dit-elle en s'asseyant.
Alors il lui narra ses trois tentatives et leur uniforme insuccès. Quand il eut fini, il fut bien étonné de voir Ferdine se lever d'un bond, les yeux brillants, et se croiser les bras d'un air de défi.
« Nous réussirons quand même, » dit-elle. « Je le veux. L'idée venait de moi, elle était mauvaise. » Tâche d'en avoir une, Siméon, elle sera meilleure. Au fond, quand on y réfléchit, on se dit bien que les gens qui désirent avoir un herbier peuvent le composer eux-mêmes. Mais ce Pomponnel n'en est pas moins un monstre. Veux-tu que je te dise, Siméon, il est jaloux de toi, il voit que tu en sais plus long que lui.
Quelle absurdité, Ferdine, c'est un professeur, il a des diplômes.
Tu en auras quand tu voudras des diplômes. Tiens, je t'en donne un tout de suite.
Étendant le bras, elle fit le geste de dérouler une feuille de papier qui n'en finissait pas. Ils se mirent tous deux à rire et, comme Ernest les rejoignait, ils changèrent d'entretien. Quand, à la porte du docteur, ils se séparèrent, Siméon dit à Ferdine : Je croyais que tu prendrais la chose beaucoup plus mal. Tu croyais que je pleurerais ? Non, non, fit-elle en secouant ses tresses ébouriffées. J'aurai autant de courage que toi et nous réussirons, tu verras. Le latin nous reste, c'est toujours cela, ajouta-t-elle gaiement. À demain, avec ta grammaire. Elle lui fit un petit signe d'adieu et ferma la porte. Siméon s'éloigna en pensant. Si elle avait pleuré, je ne sais vraiment ce que j'aurais fait, mais elle a du courage pour nous deux. Qui est-ce qui ferme là-haut la porte à clé et se jette sur une chaise, la figure cachée dans ses mains? Qui est-ce qui sanglote si violemment en répétant sans cesse « Que faire? Que faire ?» Pauvre Ferdine, elle avait caché sa déception aussi bravement qu'elle l'avait pu, mais dans cette petite chambre où elle avait bâti tant de châteaux en Espagne dont Siméon était le propriétaire, elle croyait maintenant en voir les ruines tout autour d'elle.